Merci d'être à l'écoute de RFI. 22h en temps universel. À Paris, il est 23h.
24h en France.
Le résumé de l'actualité française. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Soyez les bienvenus.
Mathis Limano.
Et à la une, procès sous tension ce lundi au tribunal correctionnel de Paris, Gérard Depardieu devant la justice. L'acteur est accusé par deux plaignantes de plusieurs chefs d'accusation, dont des agressions sexuelles sur le tournage d'un film en 2021. Le fond n'a pas encore été abordé, la défense plaidant pour l'annulation de la procédure. On écoute l'avocat de l'acteur et celui des parties civiles dans un instant. Également à la une, les débats à l'Assemblée nationale sur la loi narcotrafique débattue cet après-midi par les députés. Plusieurs mesures déjà adoptées. On vous en dresse le panorama. Jordan Bardella en Israël dès demain. Une première pour un responsable de l'extrême droite française. Et puis, le soja serait-il dangereux pour notre santé? C'est en tout cas la conclusion de l'ANSES publiée aujourd'hui. Gérard Depardieu devant la justice. Donc, le comédien de 76 ans est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le procès devait se tenir à l'automne, mais a été renvoyé pour des raisons médicales. Ce lundi, l'acteur était présent, mais un expert a limité sa présence à 6 heures. Une première journée très tendue, alors même que le fond des débats n'a pas encore été abordé, car après avoir longuement plaidé l'annulation de toute la procédure, Maître Assous, avocat de Gérard Depardieu, a demandé de nouveaux actes d'enquête contestés par les parties civiles et procureurs.
Alors qu'il n'y aura aucun doute à l'issue de ces actes que la vérité sera établie, les seuls qui s'y sont opposés avec énormément de vigueur sont les plaignantes. Je n'ai jamais vu de plaignantes qui refusent et qui font tout pour que la vérité ne se manifeste pas. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons eu cesse de vous dire que ces accusations sont mensongères et inexactes. Si elles étaient fondées, elles ne craindraient pas de confronter leurs accusations avec un certain nombre de témoins, avec la configuration des lieux, avec des expertises médicales. Tout cela, elles le refusent. Tout élément objectif, incontestable et impartial est systématiquement refusé par les plaignants. Il n'y a qu'une seule raison pour cela, c'est qu'elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes.
Et du côté des parties civiles, Maître Claude Vincent, avocat des plaignantes, dénonce de grossières manœuvres dilatoires.
Vous avez bien vu ce qui s'est passé. On a assisté à manœuvre dilatoire sur manœuvre dilatoire. Sous prétexte de plaider des conclusions de nullité, on a plaidé 1h46 sur le fond du dossier. Il n'y a aucun respect du contradictoire, ce qui fait que nous ne sommes jamais destinataires des éléments de la défense, d'accord, que ce soit les conclusions, les pièces, voilà, on n'a rien. La liste des témoins, on l'a découvert ce matin quand les débats étaient déjà ouverts. Et par ailleurs, en fait, il y a quand même une chose dont il faut avoir conscience, c'est que tout ce qui est dit de l'autre côté de la barre est faux. C'est factuellement faux, ça ne correspond pas au dossier que nous on a entre les mains, qu'on travaille depuis des mois. Donc oui, au bout d'un moment, si vous voulez, on perd un petit peu patience. Nous, en tout cas, en tant qu'avocate de partie civile, on respecte notre rôle. On essaye justement de ne pas se jouer, de ne pas aller sur le terrain, parce que vous aurez compris qu'en réalité, l'objectif, c'est que les débats débordent et débordent et débordent pour que, en fait, les débats au fond contradictoires n'aient pas lieu. Donc oui, évidemment, c'est compliqué pour les victimes, c'est compliqué d'être attaqué de la sorte, diffamé de la sorte et de ne pas pouvoir y répondre. J'espère juste que enfin, demain, on pourra aborder le fond du dossier.
Un propos recueilli par Laura Martel avec les moyens techniques de Bertrand Éclair. Le président de la Cour doit trancher ce mardi. Autre procès qui s'est ouvert aujourd'hui en Gironde, celui de l'ex-mari de Shaïnès Daoud, brûlé vive il y a 4 ans. Un féminicide qui avait ému partout dans le pays. Au premier jour du procès, l'accusé était questionné sur sa personnalité. Il s'est décrit comme un gentleman et a crié au complot. Il est jugé jusqu'à vendredi devant la cour d'assises de Bordeaux et risque la réclusion à perpétuité. Dernière ligne droite à l'Assemblée nationale pour la loi contre le narcotrafic. Les députés se prononçaient cet après-midi pour adopter ou non cette proposition de loi. Adoption par l'Assemblée nationale qui s'annonce plus incertaine qu'au Sénat. Le texte est soutenu et défendu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et celui de la Justice Gérald Darmanin. La gauche, elle, dénonce un tour de vis répressif. Les associations de défense des droits humains parlent de mesures attentatoires à l'état de droit. Tour d'horizon des principales mesures avant le vote avec Baptiste Coulon.
C'est l'une des mesures les plus décriées, le dossier coffre. Concrètement, certaines techniques d'enquête seraient gardées secrètes, accessibles uniquement aux enquêteurs et non plus aux avocats de narcotrafiquants. Pour les magistrats, la mesure priverait ainsi ces narcotrafiquants d'informations essentielles. Les avocats dénoncent une atteinte aux droits de la défense. Mesure supprimée en commission, rétablie par amendement dans une version modifiée. Elle tient compte d'une remarque du Conseil d'État qui la restreint au cas où la vie d'une personne est en danger. Autre mesure approuvée, un nouveau régime carcéral strict inspiré du modèle italien de lutte contre les mafias. Les grands criminels seraient ainsi regroupés dans des quartiers de haute sécurité pendant 2 années minimum et non plus 4 comme prévu initialement. L'accès aux visites extérieures serait aussi restreint. Les députés ont en revanche dit non à la possibilité pour les autorités d'accéder aux messageries chiffrées qu'utilisent les narcotrafiquants. Mesure essentielle pour ses promoteurs, dangereuse et inapplicable pour ses détracteurs. Il y a quelques jours, la présidente de Signal avait même menacé de retirer la messagerie des plateformes françaises si la mesure était adoptée.
Et parmi les autres mesures déjà adoptées, l'activation à distance des appareils électroniques permettant aux enquêteurs d'écouter et filmer les personnes à leur insu, ou encore la prolongation jusqu'à 120 heures de la garde à vue des mules, ces personnes qui transportent la drogue. L'État français ne compte pas lâcher le morceau sur le dossier de l'A69, l'autoroute A69, et fait appel de la décision de justice ordonnant l'arrêt du chantier. Le projet qui devait relier Castres et Toulouse dans le sud-ouest était dans le viseur d'organisations et d'élus écologistes. RFI minuit 6 en Israël, cette première historique pour l'extrême droite française. Dès demain, le président du Rassemblement national est attendu en Israël à l'invitation du gouvernement Netanyahou. Jordan Bardella sera accompagné par l'eurodéputé Marion Maréchal Le Pen. Invitation dans le cadre d'une conférence contre l'antisémitisme organisée mercredi et jeudi à Jérusalem. Avec ce voyage en terre juive, l'ERN entend parachever sa dédiabolisation, mais Raphaël Delvolvé, les choses ne sont pas aussi simples.
Ce soir à Tel Aviv, Jordan Bardella sera le premier membre du RN, ex-Front National, à fouler la Terre Sainte. À peine croyable pour le représentant d'une formation cofondé par un ex-Waffen-SS et dirigé par le passé par Jean-Marie Le Pen, condamné pour antisémitisme. Le malaise est évident en Israël. Des intervenants à la conférence, comme le philosophe Bernard-Henri Lévy, ont annulé leur présence. Le président Isaac Herzog a lui renoncé à recevoir Jordan Bardella et Marion Maréchal mercredi soir. Ils seront finalement reçus par le ministre de la Diaspora du gouvernement Netanyahou, avec lequel cette fois le rapprochement est bien réel. Le discours anti-Hamas du RN, qui se prétend meilleur bouclier des juifs contre l'islamisme, plaît au Likoud. Et si aujourd'hui, les institutions juives de France alertent davantage contre la France insoumise dans un contexte de montée de l'antisémitisme, elles n'applaudissent pas pour autant cette visite. Le président du CRIF accuse Jordan Bardella d'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiques. À l'évidence, le RN compte capitaliser avec ce voyage dans sa quête du pouvoir, à défaut d'être perçu comme un parti normal.
Raphaël Delvolvé. Les coups de boutoir contre les instances environnementales continuent en France après les attaques de différents bords politiques contre l'Agence de la Transition écologique ou l'Office français de la biodiversité. Le gouvernement de François Bayrou veut exclure les grands projets industriels du périmètre de la Commission nationale du débat public, la CNDP. Cette autorité administrative indépendante est pourtant clé pour garantir le droit des Français à être informés, donner leur avis sur les grands projets qui impactent l'environnement. Comme les mines, le forage pétrolier, les industries chimiques, les usines de batteries sont notamment concernées. Les associations écologistes sont vent debout et une fois n'est pas coutume, les salariés de la CNDP sont appelés à la grève ce mardi 25 mars. Florent Guignard est responsable du suivi des débats publics à la CNDP et gréviste.
Je vais prendre un exemple très concret. On vient de finir un débat sur un projet de mine de lithium en Auvergne. C'est un projet particulièrement important, plus d'un milliard d'euros d'investissement, qui prévoit d'extraire plusieurs millions de tonnes de minerais de lithium du sol. La CNDP a organisé un débat, c'est-à-dire qu'elle a permis aux riverains, aux citoyens, aux habitants de la région d'avoir accès à une certaine information. C'est quoi ce projet? Ce serait quoi ses potentiels impacts sur le logement, l'emploi, les retombées économiques, les impacts sur l'eau, la consommation d'électricité, le transport, etc., etc. Et surtout d'avoir leur mot à dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à cette information, on peut venir en débattre, on peut venir s'exprimer. Et la CNDP CNDP s'assure que cet avis soit porté à connaissance non seulement du porteur de projet, mais également de l'État et des décideurs publics. Ça, c'est un droit particulièrement important, c'est le droit de participer. Les citoyens y tiennent, et si effectivement ce projet de réforme venait à passer, eh ben c'est un droit qui serait supprimé. Quand on vit dans un pays démocratique, et notamment avec une démocratie participative, il me semble important que ce soit aux citoyennes et aux citoyens les premiers concernés de décider si ces projets sont bons et si ces projets sont nécessaires ou pas. Donner la parole, donner à entendre la parole des citoyennes et des citoyens. Ça, c'est quelque chose de fondamental.
Un propos recueilli par Lucille Gimbert dans les rayons des supermarchés français. Les produits à base de soja, comme les galettes, le lait et autres yaourts de plus en plus plébiscités, seraient dangereux. C'est l'ANSES qui le dit, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pourquoi ? À cause des isoflavones. Explication Valérie Cohen.
Les isoflavones sont des composés proches des hormones féminines, les œstrogènes. Ils peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, notamment sur le système reproducteur, s'ils sont consommés en grande quantité, indique l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Les isoflavones sont naturellement présents dans les légumineuses et dans les légumes, mais ce sont dans certains produits à base de soja que leur teneur est particulièrement élevée. Pour éviter une surconsommation, l'ANSES recommande de retirer ces produits des menus de la restauration collective, des crèches aux maisons de retraite, en passant par les cantines de lycée et d'entreprise. D'autant que certains individus peuvent être déjà trop exposés aux isoflavones via l'alimentation personnelle. Ainsi, parmi les enfants de 3 à 5 ans consommant des aliments au soja, 3/4 sont au-dessus du seuil défini par l'ANSES. Autre recommandation, adressée cette fois aux industriels de l'agroalimentaire, diminuer la teneur en isoflavones de leurs produits. C'est possible en choisissant certaines variétés de soja, certaines techniques agronomiques et en modifiant les procédés de fabrication. Les concentrations peuvent varier du simple au double entre deux desserts au soja. Et il y a 100 fois plus d'isoflavones dans les biscuits apéritifs à base de soja que dans la sauce soja, précise l'ANSES.
Valérie Cohen, ce journal touche à sa fin, mais restez avec nous. 24 heures en France, ça continue. Avec pour commencer l'invité culture de ce lundi 24 mars, qui est l'autrice de théâtre et comédienne française Penda Diouf, d'origine et naturalisée sénégalaise, mais c'est à un autre pays d'Afrique qu'elle consacre sa nouvelle pièce, un pays connu pour ses déserts de sable rouge, mais aussi son histoire, parfois violente, la Namibie et le génocide par les colons allemands de près de 100 000 Herero et Nama, dans ce que les historiens considèrent comme le tout premier génocide du XXe siècle. Piste, une mise en scène forte et pleine de poésie, c'est en ce moment au Théâtre 13 à Paris. Son autrice, Penda Diouf, est l'invité culture de Muriel Malouf.
Penda Diouf, vous qui êtes franco-sénégalaise, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes tournée vers la Namibie pour raconter l'histoire de ce pays et surtout une page de l'histoire très douloureuse qui est celle du génocide du peuple Herero perpétré par les Allemands?
Alors, je crois que je suis tombée amoureuse de ce pays et de la Namibie via un athlète qui s'appelle Frankie Fredericks dans les années 90, 95, 96. Et je crois que j'avais un gros crush sur lui lorsque j'étais adolescente. Et c'est lui qui m'a en fait ouvert la porte de la Namibie parce que c'était un pays que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, tiens, un pays africain dont je n'ai jamais entendu parler. Et après, j'ai commencé à faire des recherches et c'est comme ça que j'ai découvert le pays qui, à la fois, est un pays... recouvert de désert, 90% du pays est recouvert de désert et moi je suis une grande fan des déserts. Donc ça a été la première chose qui m'a attirée. Puis la deuxième, c'est la partie historique, un petit peu plus sombre, puisque pendant la colonisation allemande, entre 1884 et 1915, 75% de la population Herero et 50% de la population Nama ont été tués dans des camps de concentration, notamment pendant cette colonisation allemande.
Et vous en parlez comme une sorte de répétition générale, c'est un peu abrupt de le dire comme ça, mais c'est ça de ce qui va advenir après, c'est-à-dire la Shoah dans la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, effectivement, il y a une sorte de filiation morbide entre ce qui s'est passé pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, et ce qui s'est passé des décennies plus tôt en Afrique, dans le sud-ouest africain, en Namibie, notamment des expériences scientifiques sur les humains, la question des camps de concentration. Et aujourd'hui, même l'Allemagne s'est beaucoup penchée sur la question de la Shoah en se disant, voilà, il y a un travail de mémoire à faire et qui est vraiment important et nécessaire, bien évidemment. Mais depuis quelques années, ils se disent, mais nous avons aussi eu des colonies et il y a eu aussi un autre génocide. et c'est le génocide en Namibie.
Cette pièce est aussi traversée par votre propre histoire. Vous revenez sur votre enfance, sur votre parcours en tant qu'enfant noir élevé en France, puis jeune femme. De quelle manière, justement, c'est l'intime qui se retrouve à travers cette histoire ?
Alors, il me semblait important, pour parler de la Namibie, n'étant pas namibienne, de me situer aussi dans cette histoire et de raconter en quoi cette histoire, elle faisait écho, d'une certaine façon, à mon histoire à moi, et parce que c'est aussi une histoire coloniale. Et c'est là que j'ai décidé de parler de moi aussi et de raconter un peu ce que les conséquences de la colonisation font au corps, au parcours, aux rêves, aux espoirs d'une jeune fille afrodescendante en France aujourd'hui. Et que la France n'est pas exempte, malheureusement, de clichés racistes, de discrimination envers ces populations racisées.
À la fin de la pièce, il y a une phrase qui apparaît, que ce spectacle est dédié aux victimes des génocides passés et actuels.
Oui, il me semblait important de faire le lien. Ce spectacle parle d'histoire, donc il me semblait vraiment important de faire le lien avec ce qui se passe actuellement, notamment à Gaza. Et je ne me voyais pas du tout parler du génocide en Namibie, de raconter cette histoire sans faire un lien, même très rapide, même très furtif, avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Pour moi, c'était important que l'histoire ne se reproduise pas, justement.
Voilà. Merci, Penda Diouf.
Merci beaucoup.
Piste, la nouvelle pièce de Penda Diouf, à voir au Théâtre 13 à Paris jusqu'à la fin de la semaine. Et on en parlait pendant le journal avec la loi narcotrafic en débat à l'Assemblée nationale. Ce sujet connexe, la justice des mineurs. La loi proposée par Gabriel Attal sera soumise au vote du Sénat demain, mardi. Elle comporte notamment une dérogation à l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants multirécidivistes, la possibilité d'une comparution immédiate et la responsabilité civile solidaire des parents pour les dégâts causés par leurs enfants. Si cette loi venait à entrer en vigueur, le nombre de mineurs en détention pourrait augmenter. À Marseille, ville particulièrement touchée par le trafic de stupéfiants, notre correspondante Sophie Bourlet s'est rendue dans un établissement pour mineurs. Reportage.
À la prison pour mineurs de Marseille, les portes s'ouvrent exceptionnellement pour laisser passer le député des Bouches-du-Rhône, Hendrik Davy.
Et donc là, on va voir quelles sont les conditions de détention.
Il fait valoir son droit de visite.
Les jeunes, voir les activités qu'ils peuvent avoir, etc. Mais bref, pour n'importe quel détenu, voir si les conditions de détention sont correctes.
On va y aller avec des euros, on va y aller avec des euros pour...
Depuis les rangées de cellules qui donnent sur la cour, 50 adolescents de 13 à 17 ans essayent d'attirer l'attention du député. Idriss a autrefois fait partie de ces jeunes incarcérés. Il explique l'engrenage.
Toute ma jeunesse, toute mon adolescence, je les ai passés dans les centres éducatifs fermés, la prison. Moi, la Busserine, c'est l'un des quartiers où il y avait le plus de trafic. Et en fait, quand tu lèves la tête et que tu regardes autour de toi, ben en fait, tout le monde baigne dans le trafic pour subvenir à leur consommation, à leur style vestimentaire, à tout ça. Et puis, petit à petit, je suis rentré dans ça. Dans le stup, à guetter, à vendre, à monter de grade, jusqu'à voler et à braquer, etc.
Sur lui, la détention a aussi eu des effets positifs.
Oui, en fait, ça a été bien parce que tu as toujours des psychologues où ça te permet aussi de te poser, de faire une relecture un peu sur ta vie. Chez les mineurs, ça a été utile dans le sens où ils proposaient beaucoup de scolarité. Et au jour d'aujourd'hui, je suis diplômé, moniteur éducateur, je fais une VAE pour être éducateur spécialisé.
Mais ce jour-là, à l'EPM, la direction l'avoue, il n'y a pas école à cause du manque de personnel. La situation n'est pas rare, elle est due à de nombreux arrêts maladie et à des difficultés de recrutement. La juge pour enfants Laurence Bellon a suivi des mineurs pendant 30 ans.
Quand vous êtes avec un mineur, la notion d'apprentissage et la notion d'éducation, elle est fondamentale. L'idée qu'en frappant fort, il va comprendre, eh ben, c'est pas vrai. Vous avez là ceux qui sont en grande difficulté, et ceux qui sont pas en grande difficulté, ils le deviennent en étant placés avec des gamins qui sont très difficiles. On s'est mis à souhaiter de plus en plus que les mineurs soient traités, je dis pas comme des majeurs, mais un peu comme des majeurs.
Plusieurs syndicats des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont appelé à manifester le 25 mars contre la proposition de loi Attal et pour une augmentation des moyens dans l'éducatif. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
RFI, 1h19 à Mayotte, à la une de votre journal des Outre-mer, Serge Massot. L'examen demain au Sénat du texte visant à durcir l'accès au droit du sol à Mayotte. Bonsoir Serge.
Bonsoir. Les sénateurs débattent ce mardi d'une proposition de loi qui souhaite restreindre davantage l'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte. Une proposition qui ne répond pas vraiment aux attentes des Mahorais, selon le conseiller départemental Soula Saïd Soufou. Écoutez-le.
Ce que voulaient réellement les Mahorais, d'abord, c'était la suppression des séjours territorialisés. Et ça reste la demande la plus puissante des Mahorais. Mais je retiens que la demande première des Mahorais n'est toujours pas satisfaite. Donc tant qu'elle ne sera pas satisfaite, j'attends de voir l'issue de ce texte. On éloigne toujours les Mahorais du droit commun, alors que leur seule revendication, c'était d'accéder au droit commun. Les Mahorais ont revendiqué la fin des titres territorialisés. Demander à l'ensemble des associations, des collectifs, des partis politiques qui se sont mobilisés là-dessus, qui a été à l'initiative de cette affaire du droit du sol. C'est bien le gouvernement. Mais l'urgence était de pouvoir évacuer de Mayotte l'ensemble de ces populations qui se retrouvent entassées ici, sans avenir, sans capacité de travailler.
Des propos recueillis par Kalatoumi Abdiladi de Mayotte la Première. Sur l'île de la Réunion, un élève âgé de 14 ans est tombé du quatrième étage du collège Terrain Fleuri au Tampon. Les premiers éléments tendent vers une tentative de suicide. Le recteur Ostane Mehdi s'est rendu sur place. Il est au micro de Suzette Emma de Réunion la Première.
C'est un drame absolu. Dès la nouvelle connue, je suis venu témoigner de ma solidarité non seulement institutionnelle mais personnelle et humaine à une communauté éducative et au-delà de la communauté éducative aux élèves, de ma totale solidarité et de mon soutien. Du reste, nous avons mis en place, sans attendre, une cellule d'écoute, d'accompagnement psychologique qui restera en place aussi longtemps que nécessaire. Mais mes pensées vont surtout à cet élève et à sa famille.
On sait un petit peu ce qui s'est passé réellement ?
Cet enfant serait tombé du quatrième étage. Pour l'heure, une enquête a été ouverte. Seul le parquet, qui est en charge de l'enquête, peut communiquer sur ce point.
Mobilisation des infirmiers libéraux hier aux Antilles et en Guyane. Ils étaient appelés à fermer leur cabinet pour protester suite à l'agression de deux infirmières la semaine dernière en Guyane. Enzo Dubessé de Guyane la Première.
Selon nos informations, deux individus résidant à Maripasoula et Papaichton ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi après-midi dans le cadre de ces investigations. Ils ont été relâchés samedi soir et aucune mise en examen n'a été prononcée à ce stade. Selon les premiers éléments auxquels nous avons eu accès, trois agresseurs ont été identifiés par la victime. Les faits se seraient déroulés à Maripasoula, dans son logement et dans le cadre d'un cambriolage. L'un des voleurs serait monté à l'étage, dans la chambre de la victime, où il l'aurait agressé sexuellement. Pour rappel, 24 heures à peine après les faits, une autre infirmière se faisait braquer avec arme à feu dans sa voiture à Matoury. En réaction, plusieurs rassemblements dénonçant l'insécurité des personnels de santé ont eu lieu vendredi dans toute la Guyane.
En Guadeloupe, l'enquête sur la mort du maire du Gosier est terminée. La piste accidentelle est confirmée. Il y a un an, le corps sans vie de Cédric Cornet, alors âgé de 39 ans, était retrouvé à son domicile. Il est mort, étouffé en mangeant un morceau de viande trop gros. Eric Stingfling de Guadeloupe la Première.
L'autopsie de Cédric Cornet, effectuée le 22 mars 2024, soit dès le lendemain de la découverte du corps de l'ancien maire du Gosier, avait déjà révélé l'essentiel. Cédric Cornet a été victime d'une asphyxie mortelle provoquée par la présence d'un gros morceau de viande blanche de 5 cm sur 8 et de 3 cm d'épaisseur qui obstruait totalement son larynx. Les spécialistes parlent plus communément d'une mort par fausse route. À l'époque, l'explication avait pourtant été jugée trop simple par les avocats de la famille. Ces derniers avaient multiplié les demandes de contre-expertise et même déposé plainte pour assassinat au motif que l'élu faisait l'objet de plusieurs menaces de mort. Des courriers anonymes qui se sont révélés autant d'impasses pour les enquêteurs de la police judiciaire. De toute évidence, Cédric Cornet avait, comme à son habitude, voulu manger trop vite, une thèse confirmée par le chauffeur de l'ancien élu qui a indiqué aux enquêteurs avoir par le passé mis en garde son ancien patron à plusieurs reprises, sans grand succès.
Et puis la Nouvelle-Calédonie battue ce lundi par la Nouvelle-Zélande 3-0 en finale des qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du Monde de football. Il leur reste un espoir de qualification avec les barrages intercontinentaux. Bonne soirée sur RFI.
Et bonne soirée Serge Massot.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Et dans le Conseil Santé aujourd'hui des femmes et la souffrance au travail, le professeur Papa Lamine Faye répond aux questions de Laurence Garcia.
Bonjour professeur Papa Lamine Faye.
Bonjour Laurence.
Maître de conférence agrégé et directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de psychopathologie de l'Université Charles-Anta Diop de Dakar au Sénégal. Dites-moi professeur, dans Question de femmes, on parle de souffrance au travail, harcèlement, agression sexuelle, manque de reconnaissance. Est-ce que vous constatez que la parole se libère à ce sujet ?
La parole se libère de plus en plus, d'autant plus que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, nationales comme multinationales, les gens commencent à mettre en place des cellules d'écoute parce que ils se rendent compte que dans les rapports sociaux, les rapports sanitaires, les bilans de fin d'année, qu'il y a des fois beaucoup de facteurs de souffrance qui motivent un accompagnement. Ce qui fait que les femmes se libèrent de plus en plus, elles se donnent le droit à la parole, elles parlent de leurs maux, de leurs souffrances, elles veulent les accompagner, elles veulent les aider. Elles s'en sortent parce qu'elles parviennent maintenant à poser des limites par rapport à des questions de harcèlement. Elles parviennent à dénoncer le manque de reconnaissance. Elles parviennent aussi à le gérer. Mais on voit qu'effectivement, la parole est en train de se libérer de plus en plus.
Les symptômes qu'elles ressentent le plus, les patientes qui viennent vous consulter justement?
Alors, premier symptôme majeur qui, dès qu'elle est énoncée, on sait qu'il y a quelque chose derrière et elle n'hésite pas effectivement à en parler, c'est les troubles du sommeil. On sent des maux de tête, des fois on a des troubles digestifs. Parfois on sent le stress, on vient, on en parle directement que je suis quelqu'un de stressé. Et vous vous rendez compte que s'ils savent ce que ça signifie, il n'y a aucune gêne à en parler, à partager autour de ça. Et elles vous décrivent exactement le contexte dans lequel elles sont en train d'évoluer et qui aujourd'hui fait qu'elles sont dans cette souffrance.
Elles savent mettre des mots sur les fameux mots, hein, comme on dit. Merci beaucoup, professeur Papa Lamine Faye. Je rappelle que vous êtes maître de conférence agrégé et directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement en psychopathologie de l'Université Charles-Anta Diop de Dakar au Sénégal. Ce conseil santé à réécouter, bien sûr, sur notre appli Pure Radio. Et tout à l'heure, vous retrouverez Caroline Paré dans Priorité Santé pour parler de la tuberculose.
Et merci à vous, Laurence Garcia. Cette édition de 24 heures en France touche à sa fin. À la réalisation, Valentin Blanc, Loïc Buissière, la rédaction en chef. Mais restez avec nous sur RFI. Dans un instant, c'est RFI Soir qui commence avec Zéphirin Quadio. Mais d'ici là, on fait un détour à New York pour la bourse. Et c'est avec vous, Pierre-Yves Dugas, la bourse à New York.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un joli gain de près de 600 points et revient à 42 583. L'indice du Nasdaq rebondit de 495 points et clôture à 18 189. Les marchés d'action s'accrochent à l'idée que le président Trump pourrait se montrer plus flexible dans la mise en œuvre de droits de douane début avril, notamment en excluant certains secteurs. Pourtant, par ailleurs, le président Trump, aujourd'hui, confirme qu'il annoncera prochainement des surtaxes portant sur les importations d'automobiles, d'aluminium et de produits pharmaceutiques. Face aux signaux contradictoires entretenus délibérément par l'administration Trump, Wall Street veut toujours croire qu'in fine, le président Trump sera pragmatique et non pas dogmatique. Toutefois, les raisons de cet optimisme semblent maigres. Les nouvelles de la conjoncture américaine sont meilleures que prévues aujourd'hui. Selon l'indice flash de S&P, la production dans les services et dans le secteur manufacturier s'est nettement redressée au mois de mars, après un mois de février marqué par des tempêtes hivernales sévères. Ces bonnes nouvelles, aux yeux de ceux qui redoutaient une rechute en récession, ne plaisent guère au marché obligataire. Le rendement du T-bond remonte à 4,33. Le baril de pétrole américain gagne plus d'1% et revient à plus de 69 dollars. Le président Trump a décidé de surtaxer à 25% les importations de tout pays qui achètera du pétrole vénézuélien. L'euro retombe à 1,0802. L'indice Dow Jones rebondit d'1,4%, le Nasdaq s'offre 2,3%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Son élection avait suscité un immense espoir au Sénégal. Un an après la victoire de Bassirou Diomaye Faye, quel bilan dressez-vous de son action? Bonne gouvernance, mesures économiques et sociales, la rupture promise s'est-elle concrétisée? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Aimée Boum, romancière franco-camerounaise pour Le rêve du pêcheur. Traversée en sol majeur dans son Douala, son anthropologie, sa Toni Morrison, son Blik Bassi et ses maquisards. Où l'on découvre aussi le lien entre le prénom Aimée et la foi.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.